Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'heure de la saison des prix littéraires qui se sont succédés toute cette semaine en France, je vous propose de revenir sur les deux plus prestigieux annoncés lundi dernier.
Le prix Goncourt 2024 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix à Kamel Daoud pour son roman Ourik, paru aux éditions Gallimard.
Le prix Renaudot du roman a été décerné à Gaël Faye pour Jacques Aranda, publié aux éditions Grasset.
Et c'est donc un doublé historique cette année pour les auteurs du continent africain qui ont remporté les plus célèbres récompenses du milieu littéraire français. Deux écrivains favoris dès le début des sélections dont on pensait qu'il serait impossible de les départager. Mais les jurys ont réussi à concilier toutes les attentes, ce qui réjouit le président du Goncourt, Philippe Claudel.
Je suis ravi. Vraiment, je trouve que là, on est dans un doublé Renaudot Goncourt qui me satisfait. On a 2 livres puissants qui sont couronnés de cette rentrée littéraire. Et puis j'espère que les autres prix d'automne arriveront aussi à faire des choix qui satisferont à la fois le monde des livres et surtout les lectrices et les lecteurs.
Ourik et Jacques Aranda, 2 romans plébiscités qui partagent de surcroît un point commun, le choix de revenir sur les années 90 dans leurs pays respectifs déchirés par des massacres de civils. En Algérie pour Kamel Daoud et au Rwanda pour Gaël Faye. 2 lauréats que je vous invite à écouter à l'occasion de leur venue au restaurant Drouan à Paris, où se déroulent comme tous les ans ces 2 événements. Et en attendant l'arrivée de Kamel Daoud, nous nous dirigeons avec Apolline Verlon-Raison vers l'écrivain qui préside pour la première fois le jury Goncourt.
Philippe Claudel, vous voulez bien nous rappeler pourquoi vous avez voté pour Ourik de Kamel Daoud ?
Ourik, si vous voulez, c'est un texte fondamentalement littéraire, mais qui réinspecte une tragédie contemporaine de l'Algérie des années 90. Et il montre, ce livre, comment on peut, avec la matière du roman, avec les instruments du roman, revenir dans un chemin mémoriel qui a tendance peut-être à être occulté par des récits trop officiels. Ça montre tout le pouvoir de la littérature, justement, de proposer un autre sentier, un autre cheminement aux lectrices, aux lecteurs, de façon à éclairer une histoire douloureuse. Donc c'est notamment toutes ces qualités-là qui nous ont fait choisir Ourik. C'est pas forcément un livre simple à lire, mais la littérature, elle n'est pas simple. Elle demande aussi des efforts de la part des lectrices et des lecteurs. Mais c'est au prix de ces efforts qu'on mesure aussi la qualité d'un texte.
Catherine, par là.
Effervescence, crépitement d'appareils photo, bousculade. Pardon. C'est dans cette ambiance surchauffée que le lauréat du Goncourt entre dans la salle du restaurant. L'écrivain de 54 ans est tout sourire, élégant, veste noire avec une écharpe claire autour du cou. Il salue les membres du jury pour les remercier et prend place autour de la table des 10 où, à peine assis, je tends mon micro RFI vers lui.
Félicitations Kamel Daoud. Vos premiers mots ?
On n'en a pas dans ces circonstances, on n'a pas de premiers mots. On a des mots qu'on va retrouver par la suite, mais là c'est autre chose. Ça a tellement du sens pour moi. Pour les gens qui vont écrire, pour les gens qui n'ont pas la liberté d'écrire, pour les gens qui n'ont pas la liberté de lire, d'acheter des livres, d'en jouir. C'est un pays qui protège les écrivains. Actuellement, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, mettre en valeur un écrivain, un écrit sur la guerre avec des enjeux pareils, c'est quelque chose d'admirable. C'est un prix qui est donné à un écrivain, je ne nie pas, mais c'est aussi, sachant ce que vivent des écrivains de l'autre côté du mur de nos démocraties, c'est un signal fort pour tous les gens qui sont tenté par cette aventure, celle d'écrire et de publier, et de lire aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? J'ai pas de mots. Enfin, j'ai écrit un gros livre. Je pense que j'ai épuisé tous mes mots maintenant.
Comment est né ce livre, Ourik ?
C'est un livre que chaque Algérien peut raconter. C'est un livre que nous avons tous vécu. C'est un livre qui peut donner du sens aussi à ce qu'on vit dans ce pays-là. Mais il est né parce que je suis venu en France. Parce que c'est un pays qui me donne la liberté d'écrire. Et ça, c'est très important. Je sais qu'on aime faire du French bashing, mais pour moi, ce pays-là, c'est un pays d'accueil pour les écrivains, pour les écritures et tous ceux-là qui viennent d'ailleurs. C'est un pays de liberté. On a toujours besoin de 3 choses pour écrire. Une table, une chaise et un pays. J'ai les 3.
Comment est-ce que vous expliquez ce silence autour de la décennie noire en Algérie ?
Je ne peux pas répondre. Je pense que c'est quelque chose de tragique. Ce n'est pas facile de parler d'une guerre. Il faut du temps, il faut du deuil, il faut des mots, il faut de la distance.
Et c'est un livre qui justement veut aller contre ce silence ?
Non, je pense que c'est un livre qui va aller dans le sens de... Ce n'est pas un livre de guerre, c'est un livre de résurrection. C'est un livre d'espoir. C'est qu'on peut se reconstruire, on peut s'accepter, on peut... J'aime bien ce mot qui est galvaudé, mais qui est inévitable, c'est de la résilience.
Qui est Aube ?
Toutes les femmes, y compris la femme qui s'est déshabillée hier dans une université en Iran. Toutes les femmes, partout. Aube, c'est toutes les femmes, ici, dans des quartiers, en France, en Iran. Aube, c'est toutes les femmes. Ce n'est même pas moi, c'est toutes les femmes.
Elle vous a été inspirée par quelqu'un ?
Par beaucoup. Par beaucoup. On ne peut pas écrire sur une guerre à partir de rien. Mais on écrit à travers ses rencontres, les gens qu'on a rencontrés.
Encore une petite question. Vous parliez de l'importance des livres. Et ici, dans le roman, il y a vraiment un personnage très important qui est le libraire. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Et quel est son rôle ici dans votre roman ?
Je n'aime pas le roman à symbole, mais ce sont des libraires que j'ai rencontrés en Algérie à l'époque qui font vraiment du sacerdoce, qui prennent les livres dans des malles, qui prennent les auteurs, qui prennent dans leurs véhicules, qui vont vers les villages, etc. C'est un travail que je trouve admirable. Parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent, ils ne gagnent pas en prestige, en prix, mais ils sont là parce qu'ils aiment bien le livre. Je pense qu'ils sont, dans des tranchées, ils essaient de vivre. J'ai un immense respect et beaucoup d'admiration pour les libraires dans les autres pays que vous devinez, dans certaines géographies.
Et vous pensez que le prix Goncourt, justement, peut leur donner la force de diffuser votre livre à nouveau en Algérie ?
Non, ça ne dépend pas de la force. Ce sont d'autres considérations qui entrent en jeu, l'autorisation de publier, la loi, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais ceci dit, le livre circule, comme je le disais tout à l'heure, et donc on ne peut pas interdire un livre. On ne peut plus le faire. Merci.
Kamel Daoud, happé par le public et les journalistes, va saluer la foule par la fenêtre où il brandit son exemplaire de Houri, acclamé de toutes parts. Il faut dire que ce roman est une évocation puissante de la décennie noire en Algérie, une période taboue où, entre les années 90 et 2000, sont morts des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes assassinés par des terroristes. Une histoire que le romancier prend à bras le corps et qu'il raconte à travers un personnage féminin prénommé Aube, égorgée en 1999 à l'âge de 5 ans et survivante miraculeuse. Recueillie par une avocate, Aube est adulte au début du récit. C'est une jeune fille qui, malgré les points de suture sur son cou, n'a jamais vraiment retrouvé sa voie. Réfractaire à toutes les soumissions, aux injonctions sociales, vestimentaires, religieuses imposées aux Algériennes, elle décide de retourner seule dans le village où sa famille et tous les habitants ont été massacrés. Sur sa route, elle croise un libraire qui se bat pour que la mémoire de ses drames ne soit pas effacée, une femme qui a été otage des extrémistes mais qui est reniée par les siens, autant de personnages qui sont emmurés dans le silence. Un silence que combat Aube à sa façon, puisqu'elle s'adresse dans le roman au bébé qu'elle porte dans son ventre et lui déroule non seulement le passé du pays, mais aussi son présent, toujours traumatisé. Une parole intérieure que l'on entend ici dans la version audio de Houri, disponible dans la collection Écoutez lire chez Gallimard, lue par la comédienne Lola Neymark, dont voici un extrait.
Ça me soulage parfois. Ça me rend service d'être muette ou presque dans le monde de dehors. Les gens n'attendent pas de moi de longues phrases ou des discussions avec des mensonges ou des exagérations ou des promesses. Même quand j'ai aimé de temps à autre, je laissais mes yeux immenses, gris et verts, faire trébucher mes interlocuteurs. Mes grands yeux morts dorés qui changent de couleur, moqueurs de leur effet sur les hommes qui en perdent les mots. Ils m'examinent, plongent dans mon regard oscillant et toute langue devient insuffisante. Écoute. Dans la nuit, des navires marchands beuglent sur la mer disparue et je ne peux pas t'expliquer ce qui constitue la mer ni d'où vient le bateau qui l'ausculte avec sa grosse oreille métallique. Même avec mes mots, il y a des choses que je ne peux pas te rapporter, des nuances du monde de dehors. Il faudrait une longue vie pour te réciter les 1000 détails de cette scène, et tu n'as pas ce délai. Que veux-tu que je te dise de plus pour que nous commencions à devenir familières ? Je te parle, et le son de ma voix que tu entends n'est pas un son, peine des feuilles de papier que l'on tourne. D'ailleurs, à quoi me servirait de définir la mer, les chiens, un navire et des palmiers, ou même mon visage esquissé dans l'ombre? Les définitions sont pour les vivants, pour se sentir rassurés. Pour toi, ce sont uniquement des tonalités derrière une paroi que tu grattes. Tu subsistes là, dans le noir, caché par mes soins. Tu dois être au chaud là où tu te trouves, non? Tu flottes, je crois. Ou bien tu fais comme moi, tu te blottis. La corde doit légèrement te gêner, j'imagine. Tu es entravé. Je m'adresse à toi dans ma belle langue retentissante et muette, celle avec laquelle je me raconte des histoires depuis des années, ou dont j'use quand je parle dans ma tête à mes ennemis, voisins, imams, à Dieu qui m'a volé des choses précieuses. C'est confusément la langue des films que j'ai aimés et qui m'ont bouleversé et noyé de larmes. La langue du rêve, des secrets. La langue de ce qui ne possède pas de langue.
Et avant de refermer ce chapitre du Goncourt décerné à Kamel Daoud, quelques mots encore avec l'un des membres du jury, déterminé depuis le début à donner sa voix au roman Houri, pour des raisons purement littéraires, même si la politique s'est invitée dans le débat.
Est-ce que vous voulez bien nous dire, Pierre Assouline, pourquoi le Goncourt a choisi cette année Houri de Kamel Daoud?
C'est un grand livre. C'est un grand livre qui vient à point. On l'a choisi d'abord pour ses qualités littéraires. Bien sûr, c'est la règle chez nous, mais encore plus là, parce que le piège aurait été de lui donner, pour des raisons politiques, morales ou autres, bon, on ne va pas faire comme si on ne savait pas qu'il est engagé, qu'il écrit des chroniques, etc. Bien sûr qu'on le sait, mais si le livre n'en valait pas la peine, ça n'aurait pas suffi. Or, ce qui nous a d'abord accroché, quand on s'est précipité sur ce livre, c'est pour voir si justement il y avait le souffle suffisant pour aller au-delà de la dénonciation journalistique. Et évidemment, on a été saisi parce que c'est un livre violent, difficile, exigeant. Mais quand on y est, bah, si on accepte de se laisser emporter, c'est un livre qui peut changer les choses dans l'esprit des gens par rapport à la situation et notamment faire prendre conscience aux gens ce que c'est que la situation des femmes dans ce pays et même au-delà.
C'est un livre qui a créé des tensions, pour ne pas dire des polémiques. Est-ce que ça a joué dans le vote du jury?
Les polémiques qu'il y a eu, notamment en Algérie, ne comptent pas. Ça ne compte pas. C'est, évidemment, on les connaît, on les a à l'esprit, mais ce n'est pas là-dessus qu'on discute. Nous, quand on discute, et ça a été le cas là, c'est page par page, j'allais dire, sur les qualités littéraires. La puissance de ce livre va au-delà de l'Algérie. Bien sûr, c'est un livre qui sera interdit et qui est déjà interdit en Algérie. Bien sûr, Gallimard est interdit au Salon du Livre d'Alger, mais ça va au-delà. C'est la situation des femmes en terre d'islam qui est questionnée, d'une part, et d'autre part, c'est un livre qui s'inscrit dans un contexte général. Ce qui est le plus important au bout du bout, c'est quand même la puissance de la littérature. Qu'un roman, parce qu'on dit livre, mais c'est un roman, c'est une fiction, évidemment, ultra documentée, qu'une fiction puisse faire bouger les lignes à ce point et provoquer une telle violence en retour, moi, ça me fait penser à l'effet de souffle des versets sataniques. Et ce que disait Salman Rushdie à l'époque, il disait quand même l'effet positif de toute cette négativité qu'on m'envoie dans la figure, c'est que le roman, c'est pas n'importe quoi, le roman en général. Si un roman peut empêcher un régime politique de dormir, bah, tant mieux.
Est-ce que vous avez été menacé?
Non, l'Académie n'a pas été menacée. Il n'y a pas eu de pression politique. Aucune pression de nulle part, non.
De toute façon, vous n'auriez pas cédé?
Ah ben, au contraire. Mais il n'y a rien eu. Donc, non, aucun problème.
Dans quelques instants, suite de Littérature sans frontières consacrée au Grand Prix littéraire de la semaine, avec cette fois le lauréat du prix Renaudot, Gaël Faye, récompensé pour son deuxième roman intitulé Jacques Aranda. Un texte qui s'inscrit aussi dans l'univers musical de l'auteur, qui est aussi interprète et compositeur, comme on l'entend ici avec ce titre, Boutaré.
Un rayon de soleil le coq, le balai qui gratte dehors, plein de bruit qui court. Dans la cour, le chien à trois pattes, margarine et pain trempés dans du thé pour petit déjeuner. La maison s'éveille et mamie serre le lait. Au mur, Marie, d'où Jésus, fils de Dieu le Père. Et toujours, on continue la radio des blatteurs. Sur un apron, vase de fleurs en plastique, tu égrènes ton chapelet, mamie, t'énumères tes principes. Le respect, la famille, le mariage. Le jacaranda en fleurs déploie son ombrage. C'est pas une chanson triste, c'est juste un temps d'arrêt. Une journée à bout d'arrêt. Midi pile sonne l'Angélus. Et le fond de l'air sent l'eucalyptus. On part en promenade sous la voûte des arbres. Je t'emmène en balade sur le grand boulevard. Quand ton visage sévère se fend d'un sourire, les jacarandas se mettent à fleurir. Je voudrais tout savoir d'un grand-père que je connais pas. Y a des absents que tu ne racontes pas. Et l'après-midi s'épuise lentement. Aujourd'hui encore, ton visage me manque. C'est pas une chanson triste, c'est juste une pause, un temps d'arrêt. Une journée à bout d'arrêt.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, qui aujourd'hui revient sur les deux grands prix littéraires français qui ont récompensé cette semaine deux auteurs du continent africain. Kamel Daoud obtient le Goncourt avec son troisième roman « Houri ». Et Gaël Faye reçoit le prix Renaudot pour Jacaranda, qui après Petit Pays s'inscrit à nouveau, mais différemment, dans le traumatisme du génocide au Rwanda. Retour donc au restaurant Drouan, à Paris, où nous retrouvons cette fois le lauréat Renaudot.
Bravo. Dites-moi, cher Gaël Faye, à qui vous le dédiez ce prix ? À vos filles peut-être ?
Oui, je le dédie à mes filles et à la génération post-génocide rwandaise, aux 70% des Rwandais qui sont nés après le génocide des Tutsis au Rwanda. J'ai pensé à eux, j'ai pensé à mon personnage, Stella. Je pense ma génération, nous sommes comme un trait d'union. On essaye de leur expliquer ce que c'était que la vie avant, la vie pendant et la vie après. Et j'espère que ce roman sera un enseignement pour eux ou au moins un guide ou bien va permettre de dissiper quelques brouillards, quelques ténèbres qui peuvent exister et surtout permettre aussi de dissiper quelques silences.
Et vous qui vivez à Kigali, Gaël Faye, est-ce que vous avez l'impression depuis la sortie de ce livre que quelque chose se décante et peut-être que ce prix Renaudot va encore permettre au livre de toucher un plus grand public ?
Je ne sais pas, c'est trop tôt pour le dire, je ne sais pas, je suis juste... Je me sens là assez submergé par l'émotion parce que c'est vrai qu'avec mon premier roman, Petit Pays, qui avait déjà eu un destin, une réception incroyable, je ne m'attendais pas avec un deuxième roman sur un sujet assez proche de poursuivre cette discussion avec tous les lecteurs et aussi avec les jurés des Grands Prix. Et donc je ne sais pas très bien, mais je sais que qu'aujourd'hui, c'est peut-être, je suis à l'aube d'une nouvelle aventure, de nouvelles conversations. C'est ça, c'est un livre pour moi qui est un espace de dialogue et j'ai envie d'aller à la rencontre de cette jeune génération pour que l'on puisse penser à cette histoire, à ce qu'elle a représenté et puis aussi la regarder à l'aune de notre présent et de ce qui se passe aujourd'hui.
Mais le livre, il est bien diffusé au Rwanda, n'est-ce pas ?
Le livre, pour l'instant, est diffusé au Rwanda en français. Et donc là, on travaille pour une traduction en Kinyarwanda, comme on l'a fait avec Petit Pays, pour pouvoir le diffuser largement.
Ouais. Et vous avez l'impression que le prix Renaudot, vraiment, ça peut susciter un engouement supplémentaire pour le roman ?
Oui, je pense que le prix Renaudot va susciter un engouement, parce qu'il y a un précédent, il y a Scholastic Mukasonga, qui est la première écrivaine rwandaise qui a eu le prix Renaudot avec Notre-Dame du Nil et ce prix-là avait permis d'exposer largement son texte, ses histoires, ses romans. Donc voilà, je m'inscris également dans ses pas, dans cette, dans cette filiation-là. Je pense aussi à René de Pestre, qui est mon Pygmalion, qui est mon idole en littérature. J'ai vraiment une pensée émue pour lui aujourd'hui, qui doit avoir 98 ans et qui a eu le prix Renaudot en 88 avec Adriana dans Tous mes rêves, et qui est quelqu'un qui m'a donné l'envie d'écrire, l'envie de raconter. Et donc je pense à ces deux figures.
Et pour mieux plonger dans Jacaranda, je vous propose maintenant de réécouter un extrait du long entretien que Gaël Faye nous avait accordé dans Littérature sans frontières il y a quelques semaines. Bonjour Gaël Faye.
Bonjour.
Le Rwanda, où sont vos racines, Gaël Faye, même si vous êtes né au Burundi et que vous êtes aussi français, mais ce Rwanda qui irrigue votre plume, comme en témoigne ce deuxième roman, donc Jacaranda, nom d'un arbre tropicale, oui, aux fleurs d'un mauve flamboyant, et qui met en scène ici, en six époques, de 1994 à 2020, un narrateur prénommé Milan, franco-rwandais, qui va découvrir l'histoire, la culture, la langue, la beauté de ce pays et les traumatismes de tout un peuple à travers plusieurs personnages qu'il rencontre au fur et à mesure de ses voyages à Kigali et à Butare, entre autres. Qui est ce jeune garçon que l'on voit devenir adulte et que représente-t-il pour vous, Gaël Faye ?
Alors, il représente beaucoup d'enfants de double culture, voilà, des franco-rwandais, des belgo-rwandais que j'ai pu rencontrer et qui ont grandi en dehors du Rwanda, souvent en Europe ou aux États-Unis, et qui se sont retrouvés à ne pas du tout connaître l'histoire soit de leur père, soit de leur mère. Et donc Milan, ça aurait pu être moi aussi si j'avais grandi en France. Cette histoire dans les familles rwandaises, donc elle commence pas en 94, elle commence bien avant, avec les exils des années 60 et 70, les pogroms, les massacres. Et donc souvent les familles ont eu cette histoire pour, d'une certaine façon, protéger leurs enfants. Et donc, on a grandi à l'ombre de certains silences. Et voilà, Milan, il est presque l'archétype de ce que j'aurais pu être ou ce que sont de jeunes métis que j'ai pu rencontrer qui n'avaient aucune notion, aucune connaissance de l'histoire du Rwanda et qui doivent composer avec, parce que c'est quand même une histoire qui se rappelle à nous, forcément, dans l'actualité ou par son histoire terrible du génocide des Tutsis. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis ça questionne, en tout cas, au-delà du Rwanda, hein, parce que je pense que ça peut toucher d'autres familles dans d'autres conflits. La question du silence, comment on fait quand on est soumis au silence de nos familles sur des questions de guerre ou de génocide.
Alors Milan, ce n'est pas vous, Gaël Faye, vous venez de le dire, mais en même temps, je viens d'entendre, on a grandi dans le silence ou à l'ombre du silence. Donc ça veut dire que vous aussi, vous avez connu cette partie-là, même si vous étiez d'abord au Burundi et ensuite en France.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai grandi au Burundi, donc j'ai ressenti, j'ai vu, j'ai pas compris tout de suite. Mais en tout cas, c'est comme ce que je racontais dans Petit Pays, c'est-à-dire qu'un enfant qui observe une situation, qui ne la comprend pas. Mais c'était quand même un point de départ qui m'a permis ensuite, par mes lectures, de creuser et de finalement mettre des mots sur des sensations que j'avais eues, sur des choses auxquelles j'avais assisté. Mais à chaque fois, je me disais... Mais c'est terrible pour tous ceux qui n'ont même pas vu, qui n'ont même pas assisté, qui sont totalement ignorants. Parce que c'est ça, en fait, Milan, il n'est pas indifférent, il est ignorant. Il est totalement ignorant de ce qui se passe. Et finalement, il est un peu comme le lecteur, parce que moi, avec Petit Pays, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de lecteurs, jeunes et moins jeunes, qui n'ont aucune idée de ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est lointain, parce que voilà, le monde est complexe, on ne peut pas tout connaître. Et donc, c'est ça, il chemine en même temps que le lecteur aussi.
Et vous, Gaël Faye, qui est-ce qui vous a raconté ces scènes ?
Ce sont les survivants et les survivantes. Moi, je prends connaissance de la réalité du Rwanda, d'abord par les journées de commémoration, donc le 7 avril, qui correspond au jour de la commémoration du génocide des Tutsis. Donc, quand je suis arrivé en France, donc j'avais 13 ans, et même si on ne parlait pas du Rwanda à la maison, ma mère se faisait un point d'honneur à nous amener chaque 7 avril. À l'époque, les commémorations avaient lieu à la mairie du 3e arrondissement à Paris. voilà, le maire nous offrait, offrait gracieusement à la communauté rwandaise cet espace. Et donc, c'est la première fois que j'ai entendu des témoins, des témoignages de survivants et de survivantes. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a bouleversé. Alors, c'était pas suffisant pour comprendre. Et ensuite, j'ai eu la chance, l'année de mon bac, enfin, au moment où je passais mon bac, j'avais 17 ans, d'assister à une pièce de théâtre d'un collectif belge qui s'appelait Le Groupe Off, avec Dorcy Rougamba dans cette pièce. Et la pièce s'appelait Rwanda 94 et elle durait 6 heures. Et elle racontait comme ça toute l'histoire du Rwanda. Et là, pour moi, ça a vraiment été une claque parce que d'un coup, tout a pris son sens. J'ai compris les trajectoires de ma famille. J'ai enfin compris la différence entre ce qui s'était passé au Burundi, ce qui s'était passé au Rwanda, ce que c'est qu'un génocide, que ce n'est pas une guerre, que c'est un crime particulier, que c'est une idéologie, que ça arrive par les mots. D'un coup, j'ai vraiment compris, j'ai pris conscience de tout ça et puis ça m'a happé et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me renseigner.
Donc les commémorations, le théâtre, Dorcy Rougamba, d'ailleurs, oui. Qui a publié cette année « Lettres aux absents ».
Oui.
Et qui en effet un auteur rwandais qui a rendu hommage à sa famille. Mais est-ce qu'il y a eu, de façon plus proche, un petit peu votre mère, mais une tante, une grand-mère, une arrière-grand-mère, comme ici, Rosalie ?
Oui, alors bah, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère, qui s'appelait également Rosalie, quand j'étais petit, au Burundi. Enfin, elle est décédée, j'avais 10-11 ans. Alors, elle racontait un Rwanda ancien, un Rwanda sans ethnie.
Le royaume.
Elle avait des histoires de ce goût-là, de ce type-là. C'était une dame qui fumait la pipe, qui, comme dans le roman, qui tressait des petits paniers coniques rwandais. Donc je sais que son souvenir m'a toujours marqué. Et puis de me dire qu'elle avait vécu avant les cartes d'identité, avant l'ethnisme, ça a toujours été un souvenir fort pour moi, doux, plein de sens et qui résonne énormément avec la vie que peuvent avoir mes filles aujourd'hui au Rwanda. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas à se situer ethniquement, contrairement à les générations qu'il y a eu entre mes filles et cette arrière-grand-mère. Sinon, personne ne m'a vraiment parlé. Disons que j'ai reçu des bribes d'informations de ma grand-mère, parfois très très rarement de mes tantes, de ma mère. Donc ça s'est fait par petites touches. Mais il n'y a jamais vraiment eu quelqu'un qui m'a pris dans la confidence en m'expliquant pendant une longue soirée ce qu'a pu être l'histoire familiale et l'histoire du pays. Mais c'est pour ça que je me suis fait un peu archéologue.
Merci beaucoup Gaël Faye.
Merci beaucoup.
De nous avoir parlé si longtemps et avec autant de générosité de ce nouveau roman, Jacques Aranda, qui paraît donc aux éditions Grasset. Merci.
Merci.
Ici se referme cette spéciale prix littéraire Goncourt et Renaudot pour Kamel Daoud et Gaël Faye, deux auteurs du continent africain. A saluer aussi le prix Décembre pour Abdelataya et son bouleversant roman Le Bastion des Larmes, qui se déroule dans la cité de Salé au Maroc, un texte lui aussi admirable. Toutes les références des titres sont à retrouver sur le site de RFI à la page podcast Littérature sans frontières. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.